Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin, réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Neuvième épisode.
Marius, bouleversé, voit par le trou du mur de sa chambre les bienfaiteurs des Thénardier, Jean Valjean et Cosette. Il découvre aussi que Thénardier, qui se fait appeler Jondrette, est l'homme qui a sauvé son père à Waterloo. Marius se précipite au commissariat et rencontre l'inspecteur Javert. Il l'informe du guet-apens préparé par les Thénardier. Jean Valjean parvient à s'enfuir au moment où Javert débarque avec la police. Grâce à Éponine, la fille des Thénardier, Marius retrouve l'adresse de Cosette et de Jean Valjean, rue Plumet.
En quittant le couvent, Cosette ne pouvait rien trouver de plus doux que la maison de la rue Plumet. C'était la continuation de la solitude avec le commencement de la liberté. Un jardin fermé, mais une nature âcre, riche, voluptueuse et odorante. Les mêmes songes que dans le couvent, mais de jeunes hommes entrevus. Une grille, mais sur la rue. Et puis, elle aimait son père, c'est-à-dire Jean Valjean, de toute son âme, avec une naïve passion filiale. Elle ne se rappelait que confusément son enfance. Elle priait matin et soir pour sa mère qu'elle n'avait pas connue. Les Thénardier lui étaient restés comme deux figures hideuses à l'état de rêve. Elle se rappelait qu'elle avait été, un jour, la nuit, chercher de l'eau dans un bois. C'était très loin de Paris.
Quel âge as-tu ?
8 ans, monsieur.
Tu n'as donc pas de mère ?
Je ne crois pas.
Comment t'appelles-tu ?
Cosette.
Il lui semblait qu'elle avait commencé à vivre dans un abîme et que c'était Jean Valjean qui l'en avait tiré. Lorsqu'il était assis, elle appuyait sa joue sur ses cheveux blancs et il laissait silencieusement tomber une larme.
C'est peut-être ma mère, cet homme-là.
Cette mère, Cosette ne savait même pas son nom. Jean Valjean songeait à Fantine et se sentait accablé de silence. Il voyait vaguement dans les ténèbres quelque chose qui ressemblait à un doigt sur une bouche. De là, l'impossibilité de prononcer, même pour Cosette, ce nom, Fantine.
Père, j'ai vu cette nuit ma mère en songe. Elle avait 2 grandes ailes. Ma mère, dans sa vie, doit avoir touché à la sainteté.
Par le martyr.
Du reste, Jean Valjean était heureux. Quand Cosette sortait avec lui, elle s'appuyait sur son bras, fière, heureuse, dans la plénitude du cœur. Jean Valjean sentait sa pensée se fondre en délices. Le pauvre homme tressaillait, inondé d'une joie angélique. Et il remerciait Dieu d'avoir permis qu'il fût ainsi aimé, lui misérable, par cet être innocent. Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit « Tiens ». Il lui sembla presque qu'elle était jolie. Ceci la jeta dans un trouble singulier. Un autre jour, elle était dans le jardin et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui disait
« Monsieur, remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie. »
Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serrement de cœur. Il n'avait jamais trop su ce que c'était que la beauté d'une femme, mais par instinct, il comprenait que c'était terrible. Il se disait
« Comme elle est belle, qu'est-ce que je vais devenir, moi ?»
Il remarqua que Cosette, à présent, se tenait plus volontiers au jardin, se promenant sans déplaisir devant la grille. Ce fut à cette époque que Marius, après 6 mois écoulés, la revit au Luxembourg. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que 2 êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime, et uniquement comme cela. Ce jour-là, le regard de Cosette rendit Marius fou. Le regard de Marius rendit Cosette tremblante. À partir de ce jour, ils s'adorèrent. Toutes les situations ont leurs instincts. La vieille et éternelle mère nature avertissait sourdement Jean Valjean de la présence de Marius. Il détestait cordialement ce jeune homme.
Que vient-il chercher? Une aventure? Une amourette? Et moi? J'aurais vieilli sans avoir été jeune. J'aurais vécu sans famille, sans amis. Je serais redevenu honnête homme malgré tout. Et au moment où je suis récompensé, je perdrai Cosette. Ma vie, ma joie, mon âme. Parce qu'il aura plu un grand niais de venir flâner au Luxembourg.
On sait le reste. Marius continua d'être insensé. Un jour, il suivit Cosette de l'Ouest. 8 jours après, Jean Valjean avait déménagé. Il retourna rue Plumet. Cosette ne se plaignit pas, elle ne dit rien. Elle en était déjà à la période où l'on craint d'être pénétré et de se trahir. Jean Valjean remarqua qu'elle était devenue triste, et il devint sombre.
Qu'as-tu ?
Je n'ai rien. Et vous, père, est-ce que vous avez quelque chose ?
Moi ? Rien.
Le plus malheureux des deux, c'était Jean Valjean. La jeunesse, même dans ses chagrins, a toujours une clarté à elle. À de certains moments, il souffrait tant qu'il devenait puéril. C'est le propre de la douleur de faire reparaître le côté enfant de l'homme. Il sentait invinciblement que Cosette lui échappait. Dans la vie isolée que Cosette et Jean Valjean menaient, ils avaient une habitude. Ils faisaient quelquefois la partie de plaisir d'aller voir se lever le soleil. Dans un matin de l'automne de 1831, ils se trouvaient près de la barrière du Maine. C'était l'aube, minute ravissante et farouche. Tout était silence, personne sur la chaussée.
On dirait qu'on vient là-bas.
On ne sait quoi d'informe qui venait du boulevard entrait dans la chaussée. Cela grandissait, cela semblait se mouvoir avec ordre, pourtant c'était hérissé et frémissant. Il y avait des chevaux, des roues, des cris, des fouets claquaient. 7 voitures marchaient à la file sur la route. Elles ressemblaient à des haquets de tonneliers. Des deux côtés marchaient en double haie des gardes d'un aspect infâme, espèce de soldats goujats. Les hommes entassés sur les haquets se laissaient cahoter en silence. Ils étaient livides du frisson du matin. Toutes les détresses étaient dans ce cortège comme un chaos. L'œil de Jean Valjean était devenu effrayant.
Père, qu'est-ce qu'il y a donc dans ces voitures-là?
Des forçats.
Où donc est-ce qu'ils vont?
Galère.
Père, est-ce que ce sont encore des hommes?
Quelquefois.
Jean Valjean rentra accablé. Le soir, comme Cosette le quittait pour s'aller coucher, il l'entendit, comme se parlant à elle-même.
« Il me semble que si je trouvais sur mon chemin un de ces hommes-là, oh mon Dieu, je mourrais rien que de le voir de près. »
Leur vie s'assombrissait ainsi par degrés. Dans la première quinzaine d'avril, il fit un voyage. Où allait-il? Personne ne le savait. C'était en général quand l'argent manquait. Le soir, Cosette était seule dans le salon. Tout à coup, il lui sembla qu'elle entendait marcher dans le jardin. Elle monta rapidement dans sa chambre, ouvrit un vasistas. C'était le moment de la pleine lune. Il n'y avait personne. Elle pensa qu'elle s'était trompée. Dans le jardin, près de la grille sur la rue, il y avait un banc de pierre auquel le bras d'un passant pouvait atteindre. Cosette s'était assise sur ce banc. Elle songeait. Une tristesse la gagnait peu à peu. Elle se leva, fit lentement le tour du jardin. Elle revint au banc. Elle remarqua une grosse pierre qui n'y était pas l'instant auparavant. Il y avait en dessous quelque chose qui ressemblait à une lettre. Elle tira de l'enveloppe un petit cahier de papier. Voici ce qu'elle lut.
L'amour, c'est la salutation des anges aux astres. Comme l'âme est triste par l'amour. Quel vide que l'absence de l'être qui à lui seul remplit le monde.
Il suffit d'un sourire entrevu là-bas, sous un chapeau de crêpe blanc à bavolet lilas, pour que l'âme entre dans le palais des rêves. S'il n'y avait pas quelqu'un qui aime, le soleil s'éteindrait.
Maintenant, ces pages, de qui pouvaient-elles venir ? Cosette n'hésita pas une minute. Un seul homme, lui. Elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre, comme si elle voulait la remercier. Tout à coup, elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Il paraissait pâle et amaigri.
Pardonnez-moi, je suis là. Je ne pouvais pas vivre comme j'étais. Me reconnaissez-vous un peu ? N'ayez pas peur de moi. C'était dans le Luxembourg, le jour où vous avez passé devant moi, le 2 juillet. Il va y avoir un an. La nuit, je viens ici. Personne ne me voit. Voyez-vous, vous êtes mon ange. Laissez-moi venir un peu. Je crois que je vais mourir. Si vous saviez, je vous adore. Je vous fâche peut-être ?
Oh, ma mère.
Vous m'aimez donc ?
Tais-toi, tu le sais.
Il tomba sur le banc, elle près de lui. Il n'avait plus de paroles. Les étoiles commençaient à rayonner. Un baiser, et ce fut tout. Peu à peu, ils se parlèrent. Quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Marius, et vous ?
Je m'appelle Cosette.
Le printemps de Paris est assez souvent traversé par des bises aigres et dures. Au printemps de 1832, où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe, ces bises étaient plus âpres et plus poignantes. On sentait le souffle du choléra. Un soir, le petit Gavroche, toujours grelottant gaiement sous ses loques, se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier. Il observait afin de voir s'il ne pourrait pas chiper dans la devanture un pain de savon qu'il irait ensuite revendre un sou à un coiffeur de la banlieue. Il appelait ce genre de travail, pour lequel il avait du talent, faire la barbe au barbier. Deux enfants encore plus petits que lui entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi, la charité peut-être, dans un murmure plaintif. Le barbier les poussa tous deux dans la rue et referma sa porte.
Qu'est-ce que vous avez donc, moutard ?
Nous ne savons pas où coucher.
Voilà grand-chose. Est-ce qu'on pleure pour ça ? Sont-ils sereins, donc ? Venez avec moi.
Oui, monsieur.
Comme il passait devant un de ces épais treillis grillés qui indiquent la boutique d'un boulanger, car on met le pain comme l'or derrière des grillages de fer, Gavroche se tourna.
Môme, avons-nous dîné ?
Nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin.
Vous êtes donc sans père ni mère.
Faites excuse, monsieur. Nous avons papa et maman, mais nous ne savons pas où ils sont.
Des fois, cela vaut mieux que de le savoir.
Nous avons cherché des choses au coin des bornes, mais nous ne trouvons rien.
Je sais, c'est les chiens qui mangent tout. Calmons-nous, les momignards. Voici de quoi souper pour trois. Garçon ! 5 centimes de pain. En 3 morceaux, nous sommes 3. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Mais c'est du pain. Du très bon pain de deuxième qualité.
Vous voulez dire du larton brutal ? Du pain blanc, garçon. Du larton savonné, je régale. Morfilé. Tiens, c'est vrai. Ça ne sait pas encore, c'est si petit. Manger. C'est ça. Colle-toi ça dans le fusil. Rentrons dans la rue.
Ils reprirent la direction de la Bastille.
Tiens, c'est toi Gavroche ?
Tiens, c'est toi Montparnasse.
Où vas-tu ?
Je vais coucher ces enfants-là chez moi.
Tu loges donc ?
Dans l'éléphant.
Dans l'éléphant ? Mais comment y entres-tu ?
J'y entre. Mais il ne faut pas le dire. C'est entre les jambes de devant.
Et tu grimpes ?
Un tour de main, cric-crac, c'est fait, plus personne. Pour ces petits, j'aurai une échelle.
Où diable as-tu pris ces mômes-là ?
C'est des momichards dont un perruquier m'a fait cadeau.
Il y a 20 ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens. C'était un éléphant de 40 pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie. C'était une sorte de symbole de la force populaire, sombre, énigmatique et immense. Aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine. En arrivant près du colosse, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit.
Moutard, n'ayez pas peur.
Il y avait là une échelle. Gavroche la souleva. Vers le point où elle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir.
Les mioches, vous êtes chez moi.
Les heures de la nuit s'écoulèrent. L'ombre couvrait l'immense place de la Bastille. Un vent d'hiver qui se mêlait à la pluie soufflait par bouffées. Les patrouilles furetaient les portes cherchant les vagabonds nocturnes. Ils passaient silencieusement devant l'éléphant. Le monstre, immobile, les yeux ouverts dans les ténèbres, avait l'air de rêver comme satisfait de sa bonne action. Et abritait du ciel et des hommes les trois pauvres enfants endormis. Le lecteur a compris qu'Éponine, ayant reconnu à travers la grille l'habitante de cette rue Plumet, elle y avait conduit Marius. À partir de cette heure bénie où un baiser fiança ces deux âmes, Marius vint là tous les soirs. Tant que dura le mois de mai de cette année 1832, il y eut là toutes les nuits, dans ce pauvre jardin sauvage, sous cette broussaille chaque jour plus odorante et plus épaissie, deux êtres composés de toutes les innocences, débordant de toutes les félicités du ciel.
Comme tu es belle, je n'ose pas te regarder. C'est ce qui fait que je te contemple. Je ne sais pas ce que j'ai. Le bas de ta robe, quand le bout de ton soulier dépasse, me bouleverse. Oh Cosette, comme c'est étrange et charmant. Je suis vraiment fou. Vous êtes adorable, mademoiselle. J'étudie tes pieds au microscope et ton âme au télescope.
Je t'aime un peu plus de tout le temps qui s'est écoulé depuis ce matin.
Jean Valjean, lui, ne se doutait de rien. Tout le jardin était entre eux et la rue. Chaque fois que Marius entrait ou sortait, il rajustait soigneusement le barreau de la grille, de manière qu'aucun dérangement ne fût visible. Il s'en allait habituellement vers minuit et s'en retournait chez Courfeyrac. Cependant, diverses complications approchaient. Le 3 juin 1832, date qu'il faut indiquer à cause des événements graves qui étaient à cette époque suspendus sur l'horizon de Paris à l'état de nuages chargés, Marius, à la nuit tombante, suivait le même chemin que la veille avec les mêmes pensées de ravissement dans le cœur, lorsqu'il aperçut Éponine qui venait à lui. Il quitta le boulevard et s'en alla rue Plumet par la rue Monsieur. Cela fit qu'Éponine le suivit, chose qu'elle n'avait point faite encore. Elle le vit déranger le barreau de la grille et se glisser dans le jardin. Elle s'assit sur le soubassement, tout à côté du barreau, comme si elle le gardait. Vers 10 heures du soir, 6 hommes qui marchaient séparés entrèrent dans la rue Plumet.
C'est Iscaï. Y a-t-il un gars dans le jardin?
Je sais pas. En tout cas, j'ai levé une boulette que nous lui ferons morfiler.
As-tu du mastic pour frangir la lanterne?
Oui.
La grille est vieille. Elle criblera pas tant sous la bastringue et sera pas si dure à faucher.
Il y a un cab.
Quelle est cette drôlesse?
Votre fille.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu nous veux? Es-tu folle? Qu'est-ce que tu viens nous empêcher de travailler?
Je suis là, mon petit père, parce que je suis là. Est-ce qu'il n'est pas permis de s'asseoir sur les pierres à présent?
Chut.
C'est vous qui ne devriez pas y être. Il n'y a rien à faire ici. Mais embrassez-moi donc, mon bon petit père. Comme il y a longtemps que je ne vous ai vu. Vous êtes dehors donc.
Mais c'est bon, tu m'as embrassé. Oui, je suis dehors, je ne suis pas dedans. À présent, va-t'en.
Je ne veux pas m'en aller, justement.
Dépêchons, les coqueurs peuvent passer.
Et bonsoir, au large, laisse-nous tranquilles.
C'est l'heure des renards et pas des poules.
Vous savez bien que je ne suis pas sotte. Ordinairement, on me croit. Je vous ai rendu service dans les occasions. Eh bien, j'ai pris des renseignements. Je vous jure qu'il n'y a rien à faire dans cette maison-ci. C'est du monde très pauvre et une baraque où ils n'ont pas le sou.
Décampe la fée et laisse les hommes faire leurs affaires.
Eh bien, moi, je ne veux pas. Écoutez bien. Si vous entrez dans ce jardin, je crie, je cogne aux portes, je réveille le monde, j'appelle les sergents de ville. Vous ne me faites pas peur. Passez votre chemin. Je n'ai qu'à crier, on vient patatras. Vous êtes six, moi je suis tout le monde. Approchez pas!
Eh ben non, j'approcherai pas, mais parle pas si haut. Tu n'as donc plus d'amitié pour ton père.
Vous m'embêtez.
Il faut pourtant que nous vivions, que nous mangions.
Crevez. Ma grand-mère un soir à sa fête.
Elle a quelque chose, une raison. Ah, c'est pourtant dommage de manquer ça. Tu ne dis rien, Brujon.
J'ai rencontré ce matin deux moineaux qui se battaient. Ce soir, je me cogne à une femme qui querelle. Tout ça est mauvais, allons-nous-en.
Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu.
Ils s'en allèrent. Éponine, qui ne les quittait pas des yeux, les vit reprendre le chemin par où ils étaient venus. Elle les suivit jusqu'au boulevard, là où ils se séparèrent pour s'enfoncer dans l'obscurité où ils semblèrent fondre. Pendant ce temps, Marius était près de Cosette. Mais Cosette avait pleuré.
Qu'as-tu ?
Mon père m'a dit ce matin de me tenir prête, qu'il avait des affaires et que nous allions partir. Que nous irions peut-être en Angleterre.
Mais c'est monstrueux. Et quand partirais-tu ?
Il n'a pas dit quand.
Et quand reviendrais-tu ?
Il n'a pas dit quand.
Cosette, irez-vous ?
Pourquoi me dis-tu « vous » ? Comment veux-tu que je fasse ?
Ainsi vous irez. C'est bon. Alors j'irai ailleurs.
Que veux-tu dire ?
Rien.
Oh, que nous sommes faites, Marius ! J'ai une idée. Pars si nous partons. Je te dirai où. Viens me rejoindre où je serai.
Partir avec vous. Mais il faut de l'argent et je n'en ai pas. Cosette, je suis un misérable. Ne pleure pas. Je te donne ma parole d'honneur la plus sacrée que si tu t'en vas, je mourrai. Ne m'attends pas demain.
Pourquoi ?
Tu verras.
Un jour sans te voir. Mais c'est impossible.
Sacrifions un jour pour avoir peut-être toute la vie.
Qu'est-ce que tu espères ?
J'y songe, il faut que tu saches mon adresse. Je demeure chez un ami appelé Courfeyrac.
Il fouilla dans sa poche, en tira un couteau canif, et avec la lame, écrivit sur le plâtre du mur, 16 rue de la Verrerie.
Dis-moi ta pensée, Marius, pour que je passe une bonne nuit.
Ma pensée, la voici. C'est qu'il est impossible que Dieu veuille nous séparer.